Journal des Sciences.
Et on reste dans un champ thématique unique avec évidemment l'intelligence artificielle cette semaine. Que faut-il retenir même avec un i, puisque sinon ça fait retenir et c'est pas français. Donc que faut-il retenir de la journée d'hier, puisque c'est hier que le rapport de Cédric Villani a été remis au gouvernement, rapport sur l'intelligence artificielle, avec l'annonce d'un plan stratégique national par le chef de l'État et donc une journée de réflexion au Collège de France dont vous allez nous faire la synthèse et je vais y arriver. Il faudra mieux un robot à ma place, Zoé.
Mais oui, parce que les robots sont absolument parfaits. Oui, très riche journée. Le mathématicien Cédric Villani, député La République En Marche, qui s'était vu confier la réalisation d'un rapport sur l'intelligence artificielle il y a plusieurs mois, a remis donc ce rapport très long de 135 pages et que dans la foulée, tout de suite après, Emmanuel Macron a annoncé un plan dans lequel il reprend alors une large partie des recommandations de Cédric Villani, mais pas toutes. Alors, parmi celles qu'on peut retenir, il y a la mise en place d'un programme national pour l'intelligence artificielle qui sera coordonné par l'INRIA en lien avec les autres organismes de recherche partout et les universités liées, la création d'un réseau d'instituts dédiés avec 4 ou 5 localisations en France, une stratégie d'ouverture des données publiques de l'État, un plan d'1,5 milliard dédié à la recherche, à la fois la recherche industrielle et publique, alors là on n'a pas de détails. Cédric Villani avait préconisé d'investir dans 4 domaines régaliens, la défense, l'environnement, la santé et l'éthique. Alors j'ai demandé son regard sur ces annonces au professeur Jean-Gabriel Ganassia, professeur d'informatique à la Sorbonne Université, chercheur en intelligence artificielle et qui est le président du comité d'éthique du CNRS, qui avait été auditionné dans le cadre de l'écriture de ce rapport. Il est plutôt enthousiaste, comme on peut l'entendre.
Cette présentation qu'a faite le président de la République, je crois, montrait qu'il avait une analyse assez fine des enjeux. Et donc, ce sont, à mon sens, des choix tout à fait réfléchis, hein, qui portent quand même sur la recherche, hein, puisqu'elle a une part importante, qui portent aussi sur l'enseignement, hein, puisque Emmanuel Macron s'est engagé à doubler les formations en intelligence artificielle à l'université et à mettre les moyens, hein, en regard de ce doublement de formation. Ce qui est important parce que souvent dans les dernières années, on nous incitait à accroître les formations sans mettre de moyens. Ça veut dire qu'il y aura des recrutements d'enseignants-chercheurs. Je crois que ce qui est vraiment important, hein, pour les chercheurs aujourd'hui, c'est qu'ils puissent utiliser cet argent pour faire les recherches et pas pour passer leur temps à accomplir des tâches administratives. Donc s'il pouvait y avoir un allègement des procédures, moins de concurrence, hein, sur les projets, il faut savoir aujourd'hui, hein, que l'ANR, comme les projets européens, il y a 10% de projets acceptés, ce qui veut dire que vous avez 90% de votre temps qui est passé à rédiger de nouveaux projets, donc ça décourage vraiment les chercheurs. Donc si on pouvait avoir des projets à plus long terme, qui avaient plus de souffle, ce qu'il faut, c'est que les chercheurs puissent se passionner, je crois que c'est leur rôle, à partir de ça, qu'on arrive aussi à passionner la société sur ces questions-là, à montrer que ce sont des enjeux majeurs, et en même temps que ce sont des enjeux désirables. Donc, c'est à nous de définir quelle est la société dans laquelle nous voulons vivre dans le futur.
Et les chercheurs réunis au Collège de France ont par ailleurs tous salué, hein, l'implantation en Île-de-France des géants comme Google, IBM, DeepMind et Facebook.
Et d'ailleurs, dans les heures qui ont précédé le discours du président Emmanuel Macron, les Japonais Samsung et Fujitsu ont annoncé qu'ils en battaient le poids à ces géants américains et qu'ils s'installent eux aussi en région parisienne dans les mois qui viennent. Pour l'informaticienne Claire Mathieu, qui est directrice de recherche au CNRS et qui est titulaire cette année de la chaire informatique et sciences numériques au Collège de France, c'est la preuve que les signaux envoyés par le gouvernement français sont plutôt bon. Ça permettrait aussi sans doute aux jeunes chercheurs en intelligence artificielle de rester en France. Il faut rappeler que Cédric Villani avait préconisé dans son rapport de doubler leur salaire pour les garder en France. Proposition, on peut s'en douter qu'Emmanuel Macron n'a pas retenu dans ses annonces. J'ai demandé à Claire Mathieu, qui est la spécialiste, de l'éthique des algorithmes, c'est sur ça qu'elle travaille, son regard sur les propositions d'Emmanuel Macron en matière d'éthique. C'était la dernière partie de son discours très développé. Le président veut proposer un dispositif législatif pour la voiture autonome, hein, c'est l'un des gros chantiers de l'IA, et surtout la création d'un équivalent du GIEC pour l'IA en France, chargé de mener une réflexion prospective ouverte sur les impacts éthiques, évidemment, de l'intelligence artificielle. Alors, est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est surtout réalisable? Réponse de Claire Mathieu.
Il a donné des grandes directions auxquelles j'adhère, mais pas beaucoup de concret. Et comme il parle de ligne de crête entre le fait d'avoir des lois contraignantes et de laisser un espace de liberté, bon, dans ce genre de choses, tout dépend des détails, bien sûr. Ça peut être inquiétant, ça peut être très positif. Mais pour l'instant, les questions d'éthique n'appartiennent pas à grand monde, je pense que c'est vrai. Il faut agir et l'État a un rôle à jouer. Ça me semble clair. Alors, jusqu'à quel point doit-il intervenir? Là, c'est la fameuse ligne de crête. En fait, pour la société des hommes, pour qu'on vive en société, nous, on a besoin de lois et de gendarmes. Qu'est-ce que c'est l'analogue pour les algorithmes? L'analog, c'est en amont des spécifications qui disent quelles sont les propriétés que les algorithmes doivent satisfaire. Et puis, en aval, l'analog des gendarmes, ce sont des tests, des audits qui vérifient que les algorithmes suivent bien les règles qu'on leur a données, a posteriori. On pourrait, il serait concevable, de ne pas autoriser des algorithmes qui donnent des résultats plus précis, mais qui utilisent des éléments illégaux.
Voilà, puis l'intelligence artificielle, il en sera largement question demain tout au long de la journée, puisque c'est le troisième et dernier forum de l'année vu par les savoirs de France Culture dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne. On parlera de l'intelligence, de toutes les formes d'intelligence, dont l'intelligence artificielle. Ce sera notre sujet. On en parlera demain de 15h30 à 16h30 avec entre autres Benjamin Bayard, Jean Ponce et Laurence De Villers. Voilà, vous pouvez réserver les toutes dernières places, s'il en reste peut-être encore quelques-unes, sur le site maisondelaradio.fr. Un mot en bref maintenant, Zoé, pour dire que Hubble a découvert une galaxie où il n'y aurait pas de matière noire.
Oui, alors évidemment, c'est du conditionnel comme toujours en matière de matière noire. À quelques 65 millions d'années-lumière de nous, CG100 1052 DF2 fait partie de ces galaxies ultra-diffuses dont la densité est très basse. Plus grande que la Voie lactée, elle contient 250 fois moins d'étoiles. Surtout, on n'y trouverait pas de matière noire, cette fameuse matière mystérieuse, invisible, qu'on ne peut pas détecter, en tout cas qu'on ne détecte qu'à partir de ses effets gravitationnels sur d'autres objets. Cette observation vient défier les théories courantes sur la formation des galaxies, expliquent les auteurs de l'article qui rend compte de cette découverte. Il a été publié cette semaine dans la revue Nature.
Et puisqu'on parle de Hubble, son successeur, le très attendu James Webb Télescope, ne sera lui pas mis en route avant 2020.
La NASA annonce en effet encore un an et demi de retard pour ce télescope, raison invoquée, le besoin de temps supplémentaire pour tester tous les composants de ce futur télescope qui sont réunis pour la première fois depuis une semaine chez Northrop Grumman Aerospace, le constructeur qui construit les parties optiques. Reste à vérifier évidemment que tout ça fonctionne, faire des tests et préparer le lancement. Le budget du projet va donc dépasser sans doute les 9 milliards de dollars.
Deuxième sujet de ce journal des sciences, des chercheurs français du neurocentre de Bordeaux viennent de découvrir quels sont les neurones qui sont impliqués dans le phénomène crucial de la discrimination contextuelle, Zoé.
Ce phénomène, c'est celui qui permet aux êtres vivants, pas seulement aux humains, d'identifier les informations sensorielles qui sont pertinentes, comme les odeurs, les sons, la lumière, pour réguler leurs réponses comportementales, notamment en présence d'un danger potentiel. Et c'est ce phénomène qui est mis à mal, notamment dans des pathologies comme l'état de stress post-traumatique, où les malades reviennent sans cesse revivent l'événement à l'origine de leur stress à cause de leur incapacité justement à discriminer ce contexte. La découverte de cette équipe française emmenée par le directeur de recherche Cyril Herry est déterminante. Pourquoi ? Parce que grâce à la technique de l'optogénétique qui consiste à introduire des neurones dans les neurones des protéines photosensibles et donc de pouvoir les identifier, elle est parvenue à identifier ces neurones qui sont responsables de ce phénomène, ce qui ouvre bien sûr la voie à des progrès thérapeutiques mais ce qui change aussi fondamentalement notre compréhension des mécaniques qui sont liées à la peur. Cyril Herry.
Ces approches, elles consistent à exprimer des protéines sensibles à la lumière au niveau des neurones d'intérêt. Et grâce à une fibre optique que l'on introduit dans le cerveau des animaux, on peut activer ou inhiber les neurones de façon spécifique. Et donc c'est très important dans cette étude, puisque nous avons pu mettre en évidence que lorsqu'on activait ces neurones de façon spécifique, on arrivait à induire une discrimination contextuelle, alors que si on les inhibait avec la même approche, eh bien on induisait une généralisation contextuelle. Nos données mettent en évidence que les neurones du cortex préfrontal impliqués dans la discrimination contextuelle projettent directement sur cette structure du tronc cérébral. Si je reviens sur les circuits canoniques de la peur chez l'homme et chez l'animal, il y a deux structures qui sont importantes. Il y a l'amygdale qui est une structure sous-corticale, donc qui va traiter les informations émotionnelles sans qu'on en ait conscience. Par exemple, je me promène dans la forêt, je vois un serpent, immédiatement j'ai un réflexe de retrait. Ça implique un réseau amygdalien qui n'est pas conscient. Le cortex préfrontal, il intervient quand on prend du recul sur cet événement-là et qu'on essaie de contrôler nos émotions. Et on sait depuis un petit moment que le cortex préfrontal régule directement l'activité de l'amygdale. Donc jusqu'à présent, ce qu'on pensait, c'était que le contrôle cortical de nos émotions passait forcément par un contrôle sur l'amygdale. Nos données vont plus loin que ça puisqu'elles montrent que ce cortex préfrontal, indépendamment de l'amygdale, peut réguler directement nos réponses de peur. Et ça, c'est quelque chose qui est assez nouveau dans le champ des neurosciences, en tout cas dans le domaine de la peur.
En bref, un rapport de l'ANSES reconnaît que les malades qui se disent électrosensibles ont bien des symptômes réels, mais qui restent encore inexpliqués.
C'est ça les conclusions de cet avis rendu donc mardi par l'Agence nationale de sécurité sanitaire et de l'alimentation, de l'environnement et du travail au sujet de cette question donc très débattue encore aujourd'hui de l'électro-hypersensibilité ou EHS. Alors, elle reconnaît que les malades qui se réclament de ces troubles, qui sont très variés, qui vont des troubles du sommeil, des rythmes circadiens, fatigue, maux de tête, troubles de l'attention, de la mémoire, qu'elles imputent à leur exposition aux ondes électromagnétiques, eh bien toutes ces douleurs sont réelles, correspondent à une réalité vécue, indique l'avis, avis rendu par 40 experts réunis par l'ANSES, mais aucune preuve expérimentale solide ne permet toujours aujourd'hui d'établir un lien de causalité entre l'exposition aux champs électromagnétiques et les symptômes décrits.